Chapitre 16. Le casier administratif. N'allez pas supposer que sous le titre de casier administratif, je veuille vous apprendre quelle est la hauteur, la largeur et la profondeur du casier contenant les cartons verts du bureau. Je suis conséquent avec mes principes de ne décrire que l'indispensable en fait d'objet du matériel. Sous le nom de casier administratif, je veux parler de la division cellulaire d'un bureau, où chaque employé a sa chaise garnie, son pupitre recouvert de draps et tout ce qu'il faut enfin pour écrire commodément. Ce casier pourrait être comparé à celui que possèdent les abeilles, si les commis d'administration étaient aussi laborieux que le sont les habitants d'une ruche. Quoi qu'il en soit, je n'entends pas déprécier leur mérite, et j'ai pu constater qu'il y avait plus d'une abeille parmi eux. Il serait peut-être mieux, et l'image paraîtrait peut-être plus juste, de comparer le casier administratif au damier dont les joueurs se servent pour se divertir aux dames ou aux échecs. Le nombre des cases occupées est à peu près égal au nôtre, et les pions, une fois rangés sur chaque ligne, et chacun dans sa cage respective, il est assez difficile au pion du dernier rang de passer dans l'une des cases du second ou du troisième rang sans empiéter les droits des pions qui sont placés devant eux. Il faut qu'ils attendent patiemment que l'avancement des pions de la première ligne ait eu lieu pour que les seconds cheminent à leur tour et leur ouvrent un passage. Il y a, je le sais, à ce jeu des exceptions, et il se peut parfois que, sautant de case en case à un pion mieux posé que les autres et conduit par une main habile qui le protège, arrive tout droit à une dame. Mais le coup est rare en administration et ne va pas qui veut à dame d'un seul trait. Notez bien que c'est atteindre ce but que d'arriver au garde de sous-chef. Oh, celui de chef est en dehors du jeu. Il faut donc se dire, oh, je n'ai que la valeur de mon voisin. Le pion est devant moi, c'est à lui de profiter de l'avancement qu'on lui donne. J'aurai mon tour, s'il plaît à Dieu. Point de tour de faveur, point d'avancement qui ne soit justifié par la sortie ou par la mort d'un pion. Il y a de quoi se désespérer quand on y pense. Mais le désespoir ne doit pas s'emparer des employés qui travaillent consciencieusement. Le temps pour eux passe plus vite que pour les paresseux. Et si les années de leur existence administrative s'écoulent à la même place, ils n'ont aucun reproche à se faire et ne peuvent tout au plus s'en prendre qu'à la division peu avantageuse du casier administratif qui ne leur a pas permis d'aller exceptionnellement à dame. Chapitre 17. Les frelons. Un bureau présente l'aspect de tous les bureaux en général, de même qu'un employé ressemble à un autre employé, ainsi que l'a remarqué justement l'artisan. Il y a cependant divers emplois dans ce bureau, comme aussi les accommis et commis. Parmi ces derniers, il s'en trouve beaucoup qui remplissent leurs devoirs sans zèle ardent, mais avec exactitude, qui ne se plaignent pas inutilement, et qui supportent leur destinée sans la maudire. Mais on en voit qui agissent tout différemment, qui se plaignent à abaisser chaque jour leur profession en osant la comparer au sort des galériens. Leur existence suivant eux n'est pas tenable, les injustices les plus flagrantes s'offrent à leurs yeux. Rien n'est bien réparti en fait de fonds ni d'avancement. Les chefs sont austères, inhumains, ce sont tous des colons, des vampires, des tigres, etc., etc. Enfin, ces employés, frondeurs, se plaignent de tout ce qui arrive et de tout ce qui arrivera, sans le connaître. Leur expérience, disent-ils, ne saurait être prise en défaut. Ils ont vécu longtemps dans les bureaux. Mais hâtons-nous de répondre qu'ils n'y ont eu que peu ou pas d'avancement en raison de leur manque d'aptitude ou de leur mauvais vouloir. Ceux-là sont toujours en émoi. On n'entend qu'eux, car ils bourdonnent sans cesse. On pourrait les comparer aux frelons qui s'agitent dans la ruche pour troubler les abeilles. Oh, si vous les écoutiez, jeunes gens, vous seriez perdus. Le mauvais exemple est une tache d'huile redoutable. Une fois que la tache s'imprègne dans vos habits, plus elle vieillit et plus elle s'agrandit. Laissez prudemment les frelons se démener dans tous les sens, et n'épousez pas leurs querelles en donnant de la valeur ou de la connaissance ou de la consistance à leurs propos injurieux ou à leurs révélations calomnieuses. S'ils parlent du chef comme d'un tigre, fermez l'oreille à leurs discours. Je ne les crois pas toujours sincères. À les entendre, ils ne craignent pas d'exciter la colère du chef. Peut-être sont-ils doux et humbles avec lui. Peut-être ont-ils une soumission, des prévenances, que vous rougiriez d'avoir s'il vous fallait, comme eux, manquer de noblesse ou de dignité. Les frelons piquent, parce que c'est dans leur nature de piquer ceux qui les approchent. Aussi ne sont-ils recherchés ni affectionnés de personne. Ils sont donc le plus souvent contraints de piquer les gens en arrière. Mais on fuit encore assez ordinairement ceux qui cherchent à blesser autrui en notre présence, attendu qu'ils nous blesseraient nous-mêmes lorsque l'occasion s'en présenterait. Une piqûre de frelon peut devenir mortelle, mais si elle ternit une réputation, si elle nuit à l'avenir de l'employé honnête et consciencieux, qu'elle accuse injustement d'être l'espion du chef ou le dénonciateur de ses camarades, cette piqûre devient 100 fois plus cruelle que celle occasionnant la mort. Chapitre 18. Les mouches à miel. Nous avons tous été gourmands étant jeunes, et j'ai vu des enfants saisir adroitement au vol de grosses mouches qu'ils appelaient mouches à miel. Un jour, l'un d'eux, ayant porté l'arrière-train de la mouche sur sa langue pour sucer le soi-disant miel qu'il espérait rencontrer au ventre de l'insecte, ressentit la douleur aiguë d'une aiguille qu'il la piqua au vif. Que conclure de ce préambule ? Qu'il y a de fausses mouches à miel, et que si le frelon doit être évité avec soin, il convient en outre de ne pas se fier à toutes les mouches à miel, encore bien moins de leur prêter sa langue. Le doux laisser-aller de certains individus et leur apparence d'abeilles dans les bureaux cachent souvent un dard aussi dangereux que celui des frelons. D'ailleurs, les frelons ne piquent pas toujours et ils aiment quelquefois à passer pour des mouches à miel. Voyez entrer dans le cabinet du chef de ce tigre qu'il pourrait rendre aveugle en lui crevant les yeux. Eh bien, il bourdonne agréablement autour de ses oreilles. Il use du langage familier pour lui demander comment il se porte, s'il a passé une bonne nuit, si le temps pluvieux n'est pas la cause de son malaise ou de ses étourdissements. Et ce sont eux, messieurs les frelons, déguisés en mouches à miel, qu'ils étourdissent de leurs faux bruits et de leurs discours apprêtés. Ils flattent l'amour-propre ou la bonhomie de celui qu'ils trompent en le déchirant en arrière, et ils cherchent à se l'attirer par leurs paroles mielleuses. Leur but n'est-il pas d'éviter les reproches qu'ils ont mérités ou qui devront les atteindre pour avoir manqué à l'accomplissement de leurs devoirs ou pour avoir négligé de signer la feuille de présence. Chapitre 19. Le surnuméraire. Au milieu des frelons administratifs, des abeilles et des fausses mouches à miel, vous avez dû apercevoir un jeune homme à la figure imberbe, dans la mise simple mais entourée de propreté, se distingue de celle de ses collègues qui pour la plupart ont des habits au bureau d'une vétusté moins que respectable. Ce jeune homme, c'est le surnuméraire. Il a 18 ans accomplis et il a été reçu bachelier ès-lettres, ce qui ne l'a pas empêché de subir un examen spécial pour entrer dans les bureaux. Sa figure n'est pas dépourvue de fraîcheur, car son teint n'a pas encore eu le temps de pâlir sur des dossiers poudreux. Il a le sourire gai, et tout ce qu'il a autour de lui semble lui sourire agréablement. L'avenir, il ne le connaît pas, mais il l'aperçoit au lointain, comme une feuille de rose qui papillonne en l'air pour lui chatoyer les yeux. Il ignore totalement les habitudes que l'on contracte dans un bureau, et les manies plus ou moins ridicules de ses vieux collègues, qui lui apparaissent comme autant de charges destinées sur le cahier le gavarni et qui ne sauront jamais l'atteindre. Il s'en amuse de même que l'on se divertit au jeune âge de tout ce qui doit nous frapper un peu plus tard. Il ne se doute pas que sa tête blonde et juvénile ressemblera un jour à celle dont il rit en ce moment parce qu'elle est entièrement dégarnie de cheveux et que les hivers m'ont laissé ça et là que quelques flocons de neige. Mais patience, le temps impartial lui saura ressentir ses atteintes. Ce jeune homme, fier de sa taille, de sa tournure et de ses agréments physiques, verra les années apporter bien des modifications à sa manière de vivre, de voir et de penser. Il s'affaissera certains soirs sur le pupitre devant lequel il se tient droit. Le contour de ses épaules prendra une forme arrondie. Sa tête laissera flotter aussi au gré du vent les boucles d'une chevelure blanche, et ses joues rebondies, que la chaleur du bureau ne manquera pas d'amaigrir, permettront aux rides d'y creuser leur sillon. Cet avenir couleur de rose, qui avait jadis séduit ses yeux, aura disparu dans les nuages, et les songes dorés qui berçaient son jeune âge auront fait place à la réalité qui consiste à jouir d'un faible traitement, à espérer fort peu d'augmentation et à aller pédestrement tous les jours au bureau, muni d'un modeste parapluie de crainte du mauvais temps. Chapitre 20. Le doyen. Permettez-moi de vous esquisser en passant le portrait du doyen. Voyez-vous là-bas, dans un coin du bureau mal éclairé, un homme d'un âge mûr, ayant des lunettes que supporte un nez d'une monstruosité remarquable, et dont les cheveux rouges sont devenus gris filasse. Il a une casquette en forme de melon, et sous sa visière, qui me paraît complètement inutile, il porte un abat-jour vert, qu'il sait fabriquer lui-même, non pas pour se garantir du soleil, mais pour adoucir les rayons d'une fausse clarté que reflète sur son pupitre un mur blanc placé vis-à-vis de la fenêtre. À ce portrait, reconnaissez M. Brifoteau, le doyen d'âge du bureau, mais qui n'a cependant pas des émoluments en harmonie avec ses nombreuses années de service. Il fait des économies de bouts de ficelle. Il ramasse les petits carrés de papier formant le côté non employé des lettres reçues, et il pique au collet de son habit de bureau les épingles qu'il économise tout particulièrement. C'est qu'il a beaucoup d'ordre, M. Bifoteau. Malgré cela, il a des oppositions à son traitement. Des malheurs extraordinaires en sont la cause, et il faut le plaindre sincèrement. Il a vu des passe-droits de toutes sortes à son égard, sans savoir pourquoi, et les chagrins de ménage se sont ajoutés à ceux que lui a fait éprouver l'administration. Sans nous occuper des tourments que lui ont causé les chaînes de l'hyménée, nous dirons que M. Bifoteau a toujours eu une tournure ridicule et grotesque, et que son habitude de puiser constamment dans sa tabatière, en donnant un volume énorme à son nez, n'a jamais entretenu la devanture de sa chemise. Il travaille avec courage, et s'il trace un état où il y ait des accolades à diriger en forme d'arc, sa plume s'y prend assez adroitement. Il assoit en la guidant d'allonger sensiblement la langue avec laquelle il se lèche amoureusement le coin de la bouche en remontant sur la lèvre supérieure. Mais hélas, au beau moment où l'état proprement fait va se terminer, je ne sais pas car fatalité suive. Tout ce que je sais, c'est qu'aucun pâté n'est tombé sur son travail, mais qu'il est obligé de le recommencer à cause d'une certaine tache brune qui s'y trouve. « Maudit nez ! » s'écrie-t-il alors dans un accent de colère et de contrariété. « Il en fera jamais d'autre !» Et la trompette nasale de résonner du foie pour une fois pendant le cours de la journée. Brifoto, oh, je me dispenserai de répéter monsieur, qui a toujours paru un mot banni de la politesse en usage dans les bureaux. Brifoto, dis-je, est très frileux. Et il se caresse assez fréquemment en hiver au poêle près duquel sa table est placée. Il y lit son journal, les pieds appuyés en l'air et le corps renversé sur son fauteuil. Si l'on se plaint de l'odeur de sa chaussure roussie, Brifoto n'en fait qu'à sa tête, et il oblige ses camarades à supporter non seulement cette odeur désagréable, mais encore celle du vieux fromage de gruyère qu'il savoure tous les jours à l'heure de son déjeuner. Son peu de gêne lui suscite des querelles dans le bureau, mais Brifoto n'a garde de s'y soustraire. Il aime assez les discussions, il les provoque assez ordinairement, et il les fait durer de manière à se faire donner le blâme et à s'entendre dire de dures vérités. Ajoutez à cela qu'il a eu la maladresse de compter tous ses petits secrets de ménage et qu'il est obligé de supporter qu'on les lui rappelle avec ironie ou qu'on les apprenne aux nouveaux venus dans le bureau. Ce qui le préoccupe à toute époque de l'année, c'est la nouvelle des augmentations et des gratifications. On façonne cette nouvelle à plaisir, à l'effet d'allécher la cupidité de Brifoto, qui se réveille alors en sursaut et délaisse sa place pour s'enquérir ailleurs si la bonne nouvelle s'est répandue dans d'autres bureaux. On se plaît à ne pas le dissuader, et le malheureux Brifoto fonde, d'après la réponse affirmative, sa conduite présente sur les éventualités futures. Il lui est arrivé un jour, non pas de vendre la peau de l'ours, mais de commander à son tailleur un vêtement chaud pour l'hiver et payable sur la gratification qu'on lui avait fait entrevoir. Par un malencontreux hasard, la gratification est tombée dans l'eau, ou pour mieux dire, elle a pris le chemin du pot-au-lait de Perrette. Plus à plaindre que la laitière qui a laissé tomber son pot, Brifoto a été obligé de trouver les fonds nécessaires pour acquitter la note de son tailleur. Chapitre 21. Les témoins. La première chose qu'il convient de faire en entrant au bureau, c'est de laisser des preuves irrécusables, sinon de sa présence, du moins de son arrivée. Dans le but de satisfaire à cette obligation, je vais m'empresser, cher lecteur, de suspendre mon chapeau aux champignons de bois servant de patère qui se trouve placé à gauche de la place où j'irai m'asseoir, et je disposerai ensuite mon parapluie à ma droite dans l'encoignure formée par la fin de la table et le montant d'une case qui me sépare de mes voisins. Je procéderai ensuite au revêtement de l'habit de bureau et j'accrocherai mon paletot de voyage à la seconde patère qui accompagne celle où j'ai mis mon chapeau. Puis je prendrai dans un carton qui est devant moi la clé de mon tiroir pour en sortir ma boîte à plumes que je mettrai sur la table. J'aurai soin aussi de disposer un registre ou des papiers à ma place. Mais je m'attends à une question de la part du lecteur qui, n'ayant pas l'habitude des bureaux, va probablement me demander de lui expliquer au juste le motif de l'intérêt que j'attache à mettre en évidence mon chapeau, mon parapluie, ma boîte à plumes, etc. Oh, la question est aisée à résoudre. Vous n'ignorez pas que les terrassiers ont tous l'habitude de laisser en vue des buttes de terre pour faciliter aux maîtres qui les occupent les moyens de vérifier le travail qu'ils ont fait pendant la journée. Ces buttes de terre se nomment témoins. Eh bien, l'employé qui ne veut pas travailler a trouvé le moyen de suivre l'exemple du terrassier. Et lorsqu'il s'absente du bureau, les témoins qu'il a laissés prouvent que s'il n'est pas là, il ne doit pas être très loin. Il va s'empresser de revenir à la place près de laquelle il a déposé son chapeau. Erreur, erreur! Ce sont là de faux témoins que ces chapeaux mis en évidence pour tromper l'œil du chef. Oh, il n'en est pas la dupe. Et il feint d'ignorer le manège qui a lieu dans les bureaux et qui remonte à leur création. On n'est pas dû divulguer un secret puisqu'il est connu. Dieu me garde au surplus de vouloir entrer dans des détails compromettants pour l'employé qui se trouve à 2 lieues de son bureau ou celui qui fait une partie à Saint-Cloud ou bien une promenade au bois de Boulogne. Clément, qui sait se rendre indispensable, m'a dit confidentiellement que le cas dont il s'agit était rare, mais qu'il lui arrivait souvent, lorsque l'employé était demandé par le chef, de prévenir cet employé en allant le trouver à l'estaminet où il prend sa tasse de café et où il fait quelquefois pour se distraire une partie ou deux de cartes ou de dominos. Vous comprenez maintenant l'utilité des témoins ? Je me soumets en conséquence aux habitudes du bureau, en ce qui coche seulement le dépôt de mon chapeau et de mon parapluie, qui m'embarrasserait beaucoup s'il fallait les conserver longtemps entre mes mains. Chapitre 22. La sournoise. C'est pour troubler les ébats des employés joyeux qui s'absentent du bureau sans permission qu'une feuille de présence tout à fait indépendante de celle signée le matin a été inventée à l'effet de rendre visible la place de ses employés à des heures inattendues et qui sont soumises à l'appréciation du chef. La sournoise, c'est ainsi qu'on la nomme, arrive inopinément et toujours à point pour surprendre les étourneaux qui se sont envolés de la cage. C'est une discrète épouse épiant les pas et démarches de son marivolage et qui met à profit son temps pour inquiéter le coupable que le plaisir tient étroitement dans ses bras. Elle frappe à coup sûr, sans laisser voir qu'elle a eu une idée de préméditation. Telle est cette feuille de présence qui ne manque pas de constater des absences pouvant donner lieu à des réprimandes sévères et à des punitions. Eh bien, le danger n'effraie pas les jeunes gens qui se sont voués à ces sortes de dérangements habituels. Ils sont comme les perdreaux folâtrant dans les prés et qui croient toujours avoir le temps nécessaire pour s'envoler avant l'arrivée du chasseur ou bien avant que le plomb de son arme meurtrière ne les atteigne. Si dans la vie on se montrait plus prudent en toutes choses, on ne braverait pas si inconsidérément le danger menaçant et les témoins laissés pour parler en notre faveur devraient nous apprendre que le moyen le plus sûr d'échapper à la surveillance d'une feuille sournoise et d'éviter les reproches ou les punitions, c'est d'accomplir en tout temps la tâche qui nous est imposée, afin de mettre en défaut ceux qui auraient l'intention de nous y prendre. Chapitre 23. La cigarette. Que fait-on dans l'état militaire ? Demandait quelqu'un du civil à un zouave. À l'armée, répondit le brave. Quand on voit le danger, on se bat comme des lions. Et après le combat, on se repose en fumant sa pipe. C'est tout ? Non, on emploie son temps à médire de ses chefs. Dans l'état bureaucratique, la besogne à abattre rencontre rarement de dangereux adversaires. On y fume par exemple la cigarette à l'insu de ses supérieurs, mais je ne pense pas que l'on dise beaucoup de bien d'eux. Puisqu'il m'est venu de citer la cigarette, je dirais à ce propos que le plaisir est trop séduisant pour que nous ne nous essions pas illusionnés sur son prisme trompeur. Or, rien n'égale le plaisir de sortir un instant du bureau pour aller fumer au loin une cigarette. La prise de tabac n'occasionne, il est vrai, aucune perte de temps, mais elle charge le nez et les esprits vitaux d'une poudre sternutatoire, se produisant aux prises consommées aucun résultat satisfaisant. Elle est plutôt un sujet de gêne pour eux qu'un plaisir, tandis que la cigarette réjouit l'air qui nous entoure et nous procure une légère fumée semblable à l'encens que l'on prodigue quelquefois à soi-même. Le tout est de pouvoir donner un libre essor à la fumée de cigarette, et l'intérieur d'un bureau ne comporte pas sa présence vaporeuse. Mais l'esprit des employés est inventif. Clément, qui voit tout, m'a dit que les amateurs passionnés de la cigarette se rendent pour fumer à certaines heures du jour dans les combles de l'administration. Oh, où l'amour de la cigarette conduit-il les gens ? Quoi qu'il en soit, j'estime 100 fois plus l'employé qui fume de la sorte que celui qui se venge en dénigrant ses chefs. On pourrait tout au plus reprocher à ce dernier d'avoir contracté l'habitude de fumer, qui devient quelquefois coûteuse. Mais, en y réfléchissant, puisque l'employé est salarié de l'État, il est bien juste que l'État perçoive un impôt de l'employé. Rendons à César ce qui appartient à César. Et ne disons plus de mal de nos chefs.
Chapitre 24. Le fauteuil. En parlant le langage des administrations, on emploie assez souvent les pronoms « mon, ma, mes ». Clément dit « j'ai fait mes bureaux ». Les agents lui répliquent, chacun en particulier « oh, vous n'avez pas bien balayé ma place ». Le chef s'écrie « oh, il faut que je surveille mes employés ». Possession vaut titre, j'en conviens, mais le titre ne donne pas toujours la possession. Je suis tenté de croire que sur la terre, nous possédons peu de choses en toute propriété. Je prends à témoin le fauteuil sur lequel je suis assis. Ce fauteuil m'appartient, je pourrais dire comme bien d'autres, mon fauteuil. Eh bien non, il porte sur le dossier une inscription qui m'accuserait de mensonge. Je ne m'appelle pas Lecoq, et ce nom a été gravé avec l'aide d'un canif ou d'un poinçon sur le meuble antique qui a dû appartenir avant d'être à moi à un employé du nom de Lecoq. Il a voulu, ce pauvre employé, survivre à son bureau et à son fauteuil. Jouit-il encore de sa pension de retraite? Est-il mort? C'est ce que le fauteuil ne saurait nous apprendre. Mais il est là pour constater qu'il n'y a rien de stable ici-bas, et qu'en fait de possession, nous ne sommes que les propriétaires passagers de nos biens. Un jour arrive où il faut abandonner fauteuil, pupitre, encrier et fourniture de bureau pour aller se retirer dans un petit coin de terre qui ne sera pas encore celui destiné au repos de notre corps. Quant au champ d'Atropos, il est si souvent remué et si souvent changé de place que les paisibles os de nos ancêtres doivent craquer de mécontentement. On ne pourra bientôt plus mettre sur les tombes d'inscriptions ainsi conçues « concession à perpétuité, ici repose en paix », etc. Il n'y a donc rien au monde auquel le pronom possessif soit applicable et bien approprié. Aussi, je me garde de dire « mon fauteuil ». Je me sers d'un pronom plus collectif et je dis en m'asseyant fraîchement le matin devant la table du bureau « mettons-nous dans notre fauteuil, prenons nos dossiers, examinons cette affaire, pesons nos mots, réfléchissons sur notre réponse, prenons notre plume, écrivons. » Et si le style administratif nous rend lourds, Tâchons de ne pas nous endormir dans notre fauteuil. Chapitre 25. Le petit pain. Quand j'ai bien occupé le temps, le dos appuyé sur notre fauteuil, à débrouiller les affaires dont je suis chargé, que j'ai examiné attentivement chaque dossier, chaque réclamation des particuliers, et qu'il n'y a plus qu'à traiter chacune de ces affaires en répondant aux ayants droit, je regarde l'heure qu'il est à ma montre. Midi ! À cette apparition subite de l'heure de mon déjeuner, je saisis vivement le petit pain que m'a acheté Clément et qui, tout en satisfaisant à mon appétit, me permet de songer aux lettres que j'ai à écrire. Le petit pain, c'est le trait d'union du mot « bien-être ». Ce trait d'union coupe le mot pour l'adoucir et ne paraît pas l'avoir allongé. De même, le petit pain coupe la journée de l'employé. Il m'est permis, sans craindre d'être dérangé, de manger ce petit pain tout à mon aise, à moins que le chef ne me fasse l'honneur de me faire appeler dans son cabinet pour y conférer d'une affaire pendant quelques minutes. Or, dans le cas où ces quelques minutes se prolongeraient, elles ne feraient qu'accroître mon appétit qui, se retrouvant en face du petit pain lorsque je serai de retour à ma place, ne manquerait pas de réjouir mes yeux et mon estomac. Un petit pain, mais quelle bonne chose! Surtout quand il est bien doré en dessus et bien blanc à l'intérieur. Que de gens voudraient en avoir un semblable et le briser mollement entre leurs doigts. Du pain blanc, mais que de poésie il y a dans ce mot! Du pain blanc, mais ce serait de la brioche pour le malheureux qui est habitué au pain de munitions. Pour le travailleur et l'habitant des campagnes qui n'ont que du pain noir, comme celui qu'on donne à regret aux prisonniers. Que de réflexions philosophiques on peut faire à l'aspect d'un pain blanc, et que d'émotions ce même pain peut procurer. Plaignez-vous, hommes injustes, hommes insatiables, plaignez-vous du sort qui vous a réservé du pain blanc pour vos repas quotidiens. Plaignez-vous d'avoir ce qui manque aux indigents, qui serait satisfait de ramasser les miettes de votre table. Mais songez-vous, quelquefois, dans votre prospérité, à ces infortunés qui meurent de faim? Ne les repoussez-vous pas le plus souvent? Hommes ingrats, auxquels la nature ne refuse rien, hommes égoïstes qui deviendriez avares, réfléchissez un peu, je vous en conjure, avant de commettre d'infâmes actions. Ne brisez pas un petit pain sans vous dire à part vous. Nous sommes heureux d'avoir le nécessaire. Nous sommes heureux d'être commodément assis dans un bureau bien chauffé et d'y faire à peu près ce que nous voulons. Nous sommes heureux d'y prendre notre repas à notre heure habituelle et de joindre à notre petit pain, si l'appétit nous y invite, une tranche de pâté ou bien l'aile d'une volaille. Chapitre 26. La plume. Notre second déjeuner se trouvant accompli dans de parfaites conditions, nous pouvons à présent, comme l'écrivent nos bons correspondants de la campagne, mettre la main à la plume. Ceci n'est dit que pour arriver directement à la chose. Je n'aime pas les biais qui ont pour but de détourner du but véritable lecteur, et je voudrais que la plume n'en employa jamais. Simple et flexible comme l'oiseau qui la portait à son aile, la plume ne doit pas s'entourer d'un brillant qui peut nuire au naturel. Ce qui plaît dans la plume, ce n'est pas la couleur, c'est l'heureuse disposition de sa forme. Sa légèreté permet de la déposer sur le bord de l'encrier, de la reprendre et de se chatouiller agréablement les cheveux en cherchant avec elle l'idée qui se cache au fond de notre cerveau. La plume joue tout un rôle ici-bas. Elle peut nous aider à l'élévation d'un monument durable, de même qu'elle peut nous servir à détruire ce qu'il y a de mieux établi sur la surface du globe. On peut, avec la plume, s'élever plus haut que ne s'élève l'oiseau qui fend l'air et parler du temple de Dieu. elle représente la palme que les anges offrent aux martyrs. Et sans ce symbole de croyance, d'étude et de vérité, les évangélistes ne nous eussent rien appris. D'un trait de plume, on efface un mot qui devient nul, mais un seul mot, qu'elle ajoute à une phrase ou à un nom, peut leur donner une tournure agréable et causer d'aimables surprises au lecteur. Elle brise un arrêt, elle casse une sentence et sollicite un pouvoir en grâce. La plume est reine en ce bas monde. C'est la consolation du voyageur et des amants séparés de leurs affections. C'est le jouet d'un habile écrivain. C'est en définitive la plume qui assure, lorsqu'elle est bien conduite, des succès à l'auteur. Elle amène des clients aux notaires et aux hommes d'affaires, et dans les administrations, c'est encore la plume qui, tout en donnant du pain aux employés, leur permet de voleter de leurs propres ailes. Chapitre 27. Le style. On assure, j'ai oublié le titre du livre dans lequel j'ai lu cet argument, que le style représente l'homme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui qui a pu avoir une semblable opinion du style et des hommes, et je suis disposé à prouver que le style administratif ne représente ordinairement que l'administration elle-même. L'homme, dans ce cas, est l'instrument dont se sert l'administration pour exprimer sa volonté. C'est l'administration qui rédige et non le rédacteur, qui n'a pas à se glorifier de sa qualité. Le rédacteur n'est rien. Maintenant que je me suis exprimé carrément, je puis vous annoncer, mon cher lecteur, que j'ai la confiance de l'administration en ce qui touche la rédaction et que j'ai le droit de minuter des lettres de service, sauf ratures et approbations du chef auquel j'en soumets la lecture. Cette soumission obligatoire rentre dans la filière administrative par laquelle chacun de nous doit passer. Une fois vues et corrigées, les minutes de lettres sont remises à l'expéditionnaire qui est toujours mécontent du style. Les lettres, suivant lui, ne sont jamais assez laconiques. Il ne dit pas, comme certains ambitieux, « Si j'étais roi », mais il répète souvent, « Si j'étais rédacteur, les lettres ne retourneraient pas la page ». Je serai pour ma part disposé à accepter le raisonnement de l'expéditionnaire si le style administratif ne comportait aucun préambule et si la plupart du temps ce préambule ne demandait pas une page à lui tout seul. Or, laissons l'expéditionnaire se plaindre à tort. Il ne sait pas, comme nous, que la paraphrase est l'art de bien rédiger en fait de style administratif et qu'il est indispensable de reproduire complètement la lettre à laquelle on répond pour mériter le titre de bon rédacteur. Mais c'est assez parlé du style. J'aurai l'air du marchand qui vend sa marchandise, et je me tairai, sinon par modestie, du moins pour qu'on ne me dise pas avec un sourire malin « Vous êtes orfèvre, monsieur Joss !» Chapitre 28. La filière. Dans le chapitre consacré au style, je me suis servi d'un terme dont je n'ai pas fait connaître toute la portée au lecteur. Pour éclairer sa religion à cet égard, je lui expliquerai en peu de mots ce qu'on entend par la filière administrative. Vous savez que le militaire qui a quelques réclamations importantes à faire près de ses chefs est obligé de s'adresser au caporal, lequel va trouver le sergent qui en parle au sergent-major, que celui-ci met la réclamation du militaire sous les yeux du sous-lieutenant ou du lieutenant qui le présente au capitaine, et que c'est en remontant ainsi de grade en grade que cette réclamation parvient au ministre de la guerre. La filière administrative a aussi son échelle ascendante et remonte jusqu'au ministre des Finances, du Commerce ou des Travaux publics. Que j'ai une demande à former, je m'adresse au sous-chef, qui la remet au chef, le chef à l'administrateur, et celui-ci au directeur général qui peut la communiquer au ministre s'il le juge à propos. Mais s'il s'agit par exemple d'une réclamation faite par un particulier étranger à l'administration, auquel j'ai dû répondre par lettre administrative que l'on ne peut donner aucune suite à sa réclamation, que ce particulier soit mécontent de sa réponse, il a le droit, en sa qualité d'homme indépendant, d'adresser directement une pétition au ministre. Alors, en cette circonstance, il convient de retourner l'échelle administrative et la pétition qui est entre les mains du grand fonctionnaire de l'État peut, en suivant régulièrement la filière, descendre jusqu'à moi. En voici la preuve. Le ministre renvoie cette pétition au directeur général. Celui-ci à l'administrateur qui la transmet au chef de service, lequel à son tour la passe au sous-chef de bureau, et ce dernier la remet au rédacteur qui répond au ministre une lettre semblable à celle qui a été écrite en premier lieu au réclamant. Que conclure de la filière administrative ? Bon, pour moi, je n'ai pas d'opinion. Ce chapitre a été fait à vol d'oiseau. Le lecteur me dira ce qu'il en pense. Chapitre 29. Le grattoir. J'ai dans la boîte à plumes qui est placée à droite de ma main tous les instruments nécessaires à ma profession. Au nombre de ces instruments, il en est un manche plat, adouci sur les angles, de couleur ébène, et se terminant en queue de poisson, dont la lame, solidement fixée au manche, imite pour la forme une lancette d'un grand modèle. C'est notre grattoir. Oh, je le possédais à l'époque où j'étais surnuméraire, et c'est avec lui que je réparais tous les désordres introduits dans la copie qui m'était confiée. Le grattoir ne manque pas de mérite, mais ce petit maître incisif, dont la lame à deux tranchants ressemble à certaines gens qui réduisent les questions les plus solides au néant. Il va souvent plus loin que l'intelligence de la phrase ne lui permet d'aller, et, dépassant les bornes de la modération, il m'a obligé plus d'une fois à rétablir ce qu'il avait effacé maladroitement. Telles sont les réformes, trop promptes ou exécutées sans réflexion. On détruit d'abord et l'on reconstruit ensuite. Je suis d'avis qu'il faut user modérément du grattoir. C'est un ami qui peut nous être d'un grand secours en bien des circonstances, mais il faut craindre de l'avoir toujours à sa dévotion. Il est, je le sais, des plus empressés à se rendre à nos voeux la première fois qu'on a recours à ses services. Néanmoins, il est prudent de lui cacher, comme à certains amis, ou de ne pas lui faire comprendre que l'on pourrait avoir besoin de lui une seconde fois au même endroit et pour le même objet. Il est évident sans cela qu'il y a manque de tact et de prévoyance et que l'on donne à réfléchir au grattoir mordant qui n'arrive la troisième fois que pour mettre honteusement notre misère au grand jour. Jeunes gens, croyez-moi, renoncez au grattoir. Ayez-en soin, mais n'y touchez pas. Il est toujours imprudent de demander aide et assistance à ceux qui sont d'une nature trop incisive. Ne pouvons-nous pas nous suffire à nous-mêmes? Avec un peu d'ordre, de soin, de propreté, de mûre réflexion, en maintenant sous les doigts l'élan d'une plume fougueuse ou le trop d'abandon d'une plume désœuvrée, on arrive assez facilement à se passer du grattoir. Chapitre 30. Le canif. Vous remarquerez que dans ma boîte à plumes, il existe un second instrument tranchant et est à peu près la forme quant au manche de celui qui a fait l'objet du chapitre précédent. Le second instrument dont j'ai à vous entretenir a la lame beaucoup plus allongée que le grattoir, mais elle est en revanche excessivement étroite. Cet instrument coupe mieux qu'un rasoir. Or, quel est-il ? Patience. Ne serait-ce pas celui dont se servent les hommes mariés pour donner des coups de canif dans... Lecteur, je vous arrête. Ne parlons pas mal des gens mariés, je vous prie. Et puisque vous avez su trouver le nom de l'instrument dont je me sers pour tailler mes crayons, ne nous occupons que de son utilité sans vouloir approfondir les mystères du ménage. Autrefois, le canif ne servait qu'à la taille des crayons. Il était l'arme indispensable du bureaucrate. On faisait exclusivement usage des plumes d'oie et leur bec demandait à être taillé, puis coupé, recoupé et surcoupé. Le temps se passait de la sorte fort agréablement. Il suffisait de dire « ma plume n'est pas bonne » pour que le chef le plus sévère comprît qu'il fallait bien accorder à l'employé le droit de tailler sa plume. Il y a divers genres d'écriture. Il y avait différentes manières d'allonger ou de raccourcir le bec d'une plume. Tout cela a été compris par un chef indulgent qui écoutait les raisons excellentes que lui donnait le commis placé sous ses ordres. Mais aujourd'hui, la chose a bien changé. On fait usage de plumes métalliques. Elles sont toutes taillées et leur dureté ne permet que l'on falâtre avec le canif. Le pauvre instrument serait banni des bureaux si les crayons n'existaient pas. On remarquera aussi que la mine des crayons est trompeuse. Elle s'échappe parfois du bois qui la contient. C'est avec ménagement que l'on doit procéder à la taille du crayon dont le chef du bureau ne fait pas le cadeau journalier. Il faut faire durer son crayon longtemps en évitant de la tailler trop souvent. À quoi donc maintenant employer ce canif qui est tout honteux de l'oisiveté à laquelle on le condamne ? La chose est bien simple. On imite les écoliers. On conserve dans sa poche pendant l'été des noyaux de cerise ou d'abricot. On les met à jour à l'aide d'un canif et l'on fait des petits paniers ou des étuis imitant la dentelle. L'automne fournit en outre des marrons d'Inde. On peut encore employer son talent de sculpteur, toujours au moyen du canif, en représentant avec ses marrons des figures grotesques ou des charges ressemblantes que l'on vend à Susse près de la Bourse ou à la maison Giroux. Comme vous le voyez, l'employé qui s'occupe à son bureau trouve infailliblement le moyen de mettre à son profit le temps et d'user la lame du canif. Chapitre 31, l'épingle. Le lecteur pensera peut-être qu'il y a fort peu de choses à dire de l'épingle qui se trouve en ce moment sous mes doigts, à moins que je ne m'en serve pour piquer quelqu'un. Mon intention, comme je l'ai annoncé dans ma préface, est de ne blesser personne et je tiens trop à la haute considération du lecteur pour me servir d'une épingle contre lui. Je n'ai d'autre but que celui de rattacher l'épingle à l'ordre et à la propreté dont elle est l'emblème et qui doivent la mettre en évidence en lui donnant un air de distinction. L'épingle lie une conversation et la rend parfois fort attrayante. Un verre d'eau, chacun le sait, a bouleversé tout un empire. Une épingle, loin d'être une cause de trouble, apporte l'union en rassemblant des titres épars ou des papiers d'affaires que le vent pourrait enlever. Je n'ai pas besoin de rappeler que c'est une épingle qui a mis en évidence le nom de M. Lafitte et que cette épingle qu'il a ramassée avec soin devant un supérieur, alors qu'il n'était qu'un petit commis, a été plus tard la cause indirecte de sa fortune. Mais je dirais qu'il m'est toujours fort agréable de rencontrer non pas les imitateurs serviles de M. Lafitte, mais ceux qui tiennent à mettre dans leurs affaires autant d'ordre que de précision, et qui n'ignorent pas la manière de se conduire tout en sachant s'habiller convenablement. Une cravate de soie bien noire, glissée dessous un col de chemise bleu-blanc, ne manque pas de parler en faveur de l'homme distingué dont les manières répondent à la mise. Et si vous ajoutez à cette cravate, dont les extrémités ne doivent pas flotter au vent, une épingle qui les retienne, vous indiquez l'ordre qui préside à votre toilette. Vous vous préparez un regard favorable de la part du chef devant lequel vous vous présentez, ou bien le sourire gracieux de la dame qui vous reçoit dans un salon. Si, contrairement au principe du bon goût de la politesse ordinaire et des manières distinguées des gens comme il le faut, vous arrivez à votre bureau, la chemise en désordre ou tachée, la cravate mal nouée, l'habit décousu, le gilet déboutonné ou privé de l'un de ses points d'attache, le pantalon bordé d'un ourlet de fange, et que pour parler le style des romantiques, vous ayez à vos pieds des souliers impossibles, vous déplaisez non seulement à vos camarades de bureau, mais vous vous exposez à ce que votre chef, vous faisant un accueil défavorable, alors que vous sollicitez près de lui de l'avancement, oublie complètement vos anciens services en présence de votre désordre et de votre malpropreté. Ben, il vaudrait mieux, péchant d'un excès contraire, que l'employé se distinguât par sa bonne tenue, et qu'on pût dire en le voyant, « C'est un employé coquet, il est tiré à quatre épingles. » Chapitre 32. La grimace. Puisque j'ai parlé des épingles, j'ai besoin de vous présenter la grimace sur laquelle on les pique ordinairement. Notre grimace est une boîte en carton de forme ronde à 8 pans coupés. Elle est recouverte de soie, sous laquelle on a eu soin de mettre du son ou de la sciure de bois pour que le couvercle s'érige en pelote. L'intérieur de la boîte, si on l'ouvre, contient des pains à cacheter de toutes les couleurs. Ce qui ne veut pas dire que l'homme doive être changeant dans ses opinions, mais il est bon parfois de varier la couleur de son style si l'on ne veut pas que la forme en soit monotone. La grimace que je possède est comme notre fauteuil. Elle a une inscription sous forme de date qui indique qu'avant moi, elle appartenait à un autre personnage. Cet objet me provient de l'héritage de mon père. Il l'avait laissé sur la table du bureau en faisant ses adieux à la vie bureaucratique, et le sous-chef, nommé en remplacement de mon père, a eu la délicatesse de se déposséder de la boîte en question, pensant bien que son souvenir précieux me serait agréable. J'attache en effet un grand prix à cette boîte, qui me rappelle la présence de mon père et les longs services qu'il a rendus à l'administration. Le temps a promené ses ravages sur elle, et il a flétri la soie verte qui la recouvre, mais il ne détruira jamais l'honneur et la réputation de son ancien maître. Je tiens essentiellement à garder jusqu'au moment où je prendrai ma retraite à mon tour le gage précieux de mon père, et lorsqu'il sera tout à fait hors de service, je le conserverai chez moi comme une sainte relique que trouveront plus tard mes enfants. Chapitre 33. La réception. Si vous avez consulté l'almanach, vous n'ignorez pas, lecteur, que c'est aujourd'hui le 31 décembre, et vous saurez que c'est précisément le jour consacré aux grandes réceptions. Nous aurons donc l'honneur d'aller rendre une visite à nos supérieurs. Veuillez à cet effet m'accompagner quelques instants jusque dans le cabinet de notre administrateur. La réception sera de courte durée et nous pourrons ensuite reprendre le fil de notre conversation. Je vous préviens que cette fois nous avons des marches à gravir et qu'il nous faudra parcourir de spacieux corridors pour arriver jusqu'au chef qui est le plus élevé en grade après le directeur général. Hâtons-nous donc de nous habiller. Prenons notre chapeau et suivez-moi, je vous en prie. Mes collègues vont m'imiter et le chef du bureau, se plaçant à notre tête, les sous-chefs à ses côtés, vous allez nous entendre marquer le pas. À propos, j'ai oublié mon parapluie. Lecteur, soyez indulgent. Nous n'avons qu'une cour à traverser pour nous rendre à notre destination. Nous montons l'escalier. Voici l'antichambre qui mène chez l'administrateur. Quelle affluence d'employés dans cette antichambre! Ce sont les commis des autres bureaux de la division qui attendent qu'on les introduise auprès de l'administrateur. Nous passerons ensuite. Ah, ils sont entrés. Attention! Ah, ils sortent. C'est maintenant à nous d'entrer. Nous voici devant l'administrateur. C'est un homme qui, sachant se présenter, sait par conséquent recevoir. Il n'est point âgé, il a bon ton, bonne manière, et l'habit qui le distingue n'est pas celui de nos bureaux. On y remarque un petit ruban rouge disposé en rosette qui donne beaucoup d'attrait à la boutonnière de cet habit. Chacun s'incline, et le chef de bureau porte la parole en notre nom. L'administrateur lui répond avec le sourire sur les lèvres. Il l'encourage dans ses heureux projets d'amélioration du service et il fait ensuite aux employés des compliments plus ou moins flatteurs. Oh, il ne leur dit pas, comme le vieux monsieur dessiné par Gavarni, « Mes petits-enfants, vous aurez du bonbon quand je m'en irai !» Mais il leur promet de l'avancement sur les premiers fonds qui seront disponibles. Il met tant de grâce à s'exprimer, tant d'abandon bienveillant envers les employés, que l'on est heureux de se retirer les mains vides, après avoir fait le salut d'usage que l'administrateur nous rend avec toute la distinction qui caractérise un homme du monde. Eh bien, êtes-vous satisfait? Oh, j'aurais voulu, direz-vous, être reçu chez le directeur général. Voilà bien de l'ambition, de la vanité des gens et des lecteurs. Sachez donc que le directeur général ne reçoit que l'état-major de son personnel. Autrefois, les commis de tout grade étaient admis à la grande réception annuelle. Le temps a apporté des modifications à cet ordre des choses. N'ayant pas la qualité pour m'introduire avec les chefs admis à cette grande réception, si vous désirez en avoir un aperçu quelconque, je vous retracerai celle à laquelle j'ai assisté il y a 20 ans environ, à l'époque du jour de l'an. Notre respectable directeur général, courbé sous le fardeau des ans, était appuyé près de la cheminée de son salon. Il nous reçut sans pouvoir faire un pas vers nous, mais, prenant la parole, il nous adressa ce discours. Messieurs, ici il s'arrêta pour faire salut à droite et un salut à gauche. Messieurs, le jour de l'an, messieurs, le jour de l'an est une cérémonie qui est une cérémonie que... Puis anéanti par les souffrances de la goutte, il porta la main au cordon de sa sonnette qui fit ouvrir tout aussitôt la porte du salon et l'huissier nous mit poliment dehors. « Quoi ? » s'écrièrent les employés. « La réception est déjà finie. Il ne nous a rien dit. »« Vous vous trompez, cher collègue. Il a fait l'emploi de 2 pronoms relatifs à la circonstance ennuyeuse qui l'accablait. Vous avez ajouté le 3e pronom. Oh, on ne pouvait en exiger davantage. Chapitre 34. Le tigre. Puisque nous sommes dans notre jour de visites officielles, nous irons présenter nos devoirs au chef de bureau en descendant du cabinet de l'administrateur. Rendre une visite au chef, me dira-t-on ? À celui que les employés nomment le tigre ? Oui, mais rassurez-vous, l'antre de ce tigre n'est pas redoutable et lui-même n'est pas cruel. Nous voilà en sa présence. Il nous parle non comme un chef, mais comme un père de famille.
Il entre dans des détails que l'administrateur n'aurait pas eu le temps d'aborder. Et si les vœux qu'il forme pour notre bonheur sont suivis d'un regret, c'est celui de ne pas pouvoir contribuer entièrement à ce bonheur auquel il aime à travailler à notre insu. Mais on l'a dit, c'est un tigre. Il a le cœur dur, froid, égoïste. Il ressemble au chef qu'il a remplacé. Et son successeur lui ressemblera après lui. Mais hélas, que les hommes sont méchants. Je puis citer pour preuve qu'un employé non dépourvu de mérite et de capacité, mais qui avait eu l'intention bien arrêtée de manquer à ses devoirs, se compromit à l'égard du chef qui l'insulta gravement en présence de camarades joyeux d'entendre des paroles offensantes. Le chef, outragé et fortement irrité, se mordit les lèvres en disant quelques mots sanglants à l'employé, puis rentré dans son cabinet, il fit un rapport fulminant qu'il copia lui-même. Il aurait pu l'apporter immédiatement à l'administrateur, mais son agitation au bout d'une heure s'étant calmée, il se contenta d'examiner le rapport. Il le lisait lorsque, conduit pour une affaire de service dans le cabinet de ce chef, je vis le rapport entre ses mains. « Fallait-il, sur la fin de ma carrière administrative, me dit-il, se laisser aller à l'emportement, à la colère, à la vengeance, sévir contre l'agent dont l'avenir m'était confié, faire un rapport contre lui et me rendre la cause volontaire de sa perte? Car, si je donne cours à mon rapport, l'employé peut être révoqué. » Depuis 35 ans que je remplis les fonctions de chef de bureau, je n'ai servi contre personne, et mes menaces n'ont jamais été que celles du tonnerre grondant au lointain. Je n'ai jusqu'à présent frappé qui que ce soit. S'il fallait que mon rapport eût son effet retentissant, j'en pleurerais de regret et je me reprocherais sur mes vieux jours la perte d'un employé laborieux. Et en achevant ces mots, le tigre baissa la tête pour mieux cacher son trouble, et une larme brûlante, tombant sur le rapport qu'il tenait, effaça le nom de l'employé compromis. Chapitre 35. Le dernier jour du mois. Le jour le plus agréable pour les employés, après le dimanche et les jours de fête, qui ne sont pas ordinairement consacrés au bureau, c'est le dernier jour du mois. En se représentant 12 fois dans l'année, il donne 12 fois à l'employé la satisfaction de toucher ses appointements. Tous les agents du bureau, indistinctement, quel que soit leur grade, jouissent de cette satisfaction, à l'exception du surnuméraire, qui pendant 2 années consécutives émarge pour des guillemets sur l'état d'appointement. Le 25e mois, on lui alloue un traitement de 1200 à 1500 francs, suivant les administrations. Mais le premier mois de traitement, le surnuméraire n'envoie que le chiffre, attendu que la somme est versée dans la caisse des fonds retenus en prévision de la pension de retraite. Nous avons vu sur l'almanach que c'est aujourd'hui le 31 décembre. Conséquemment, cher lecteur, ce jour entre dans la catégorie de ceux qui sont productifs pour les employés appointés. On doit accueillir ce jour avec tout l'intérêt qu'il comporte. Seulement, on pourrait lui reprocher d'être le trop proche voisin du premier de l'an, qui nécessite de notre part des dépenses de toute nature. Ce n'est pas une raison, quoi qu'il advienne, pour repousser l'offre de service d'un ami capital, mais au contraire, c'en est une pour lui tendre joyeusement les deux mains. Rarement, hélas, les employés ont la satisfaction de recevoir dans la main gauche une somme égale à celle que touche la main droite. Une des deux mains suffit ordinairement pour contenir le modeste revenu du mois. Autrefois, que la vie était à bon marché,
l'on nous payait généreusement en grosses pièces de monnaie. Aujourd'hui que tout est cher, on nous paye mesquinement en or. De sorte qu'à la première vue, on pourrait supposer que le traitement qui nous est alloué a considérablement diminué. On ne saurait reprocher, après tout, à l'employé d'ignorer l'art de calculer, et je serais tenté de penser que la pièce d'or de 20 francs ne vaut plus 4 écus de 5 francs. Au surplus, cette pièce d'or gêne l'employé pour établir ses comptes. Il est obligé d'en faire la division dans sa mémoire et de voir par aperçu quels sont les objets dont l'acquisition lui deviendra indispensable. S'il a besoin de renouveler son chapeau ou de le faire simplement retaper, si la chaussure qu'il porte est de nature à s'accorder avec le froid ou la neige du 31 décembre, et si elle pourra s'accommoder en outre avec les exigences de toilette du jour suivant. Si le paletot de voyage à son bureau ne manque pas d'un collet de velours et de boutons, s'il n'a pas besoin d'être rebordé ou s'il ne serait pas urgent de le remplacer par un autre paletot plus confortable et moins étranger à la mode. Puis il y a les questions d'intérieur, si l'employé est marié. Nous passerons sous silence l'article pot-au-feu et l'article carotte qui appartiennent de plein droit à la ménagère, et nous écouterons seulement M. Papillon, qui en sa qualité de garçon fait en ce moment son décompte personnel. Ben, je suis censé recevoir par mois la somme de 150 francs, mais le droit de 5% étant retranché de cette somme en raison du prélèvement fait pour la masse des fonds de pension, je ne touche en réalité que la somme de 142 francs 50 centimes. Oh, c'est plus long à écrire qu'à dépenser. Examinons. Je dois 30 francs à mon tailleur qui m'a fourni un pantalon, un gilet d'été. Ben, la somme est forte, mais il faut la payer si je veux user de son crédit pour un pantalon d'hiver. Je dois 60 francs à ma gargote, enfin disons à mon restaurant, pour les dîners peu succulents que j'y ai pris pendant le mois. Ce qui fait déjà 90 francs, plus 15 francs à mon bottier. Je mets de côté 15 francs destinés à la dépense de mes déjeuners. C'est pas trop de 15 francs, je le suppose. Non, c'est pas assez. Je finirai à ce jeu par me détruire totalement la santé. Mettons 20 francs. Total 125 francs. Je donne 2 francs au gardien de bureau à titre d'étrenne, 3 francs à mon portier, 1 franc au facteur qui m'apporte mes lettres, idem 1 franc à la laitière qui monte chaque matin les 5 étages de mon escalier, 50 centimes à mon porteur d'eau, rien à ma femme de ménage car c'est moi. Récapitulons. 125 francs d'une part et 7 francs 50 centimes de l'autre font 132 francs 50 centimes. Bon, il me reste 10 francs. C'est pour acheter du bois. Non, l'hiver commence à se faire sentir et je n'ai pas encore fait monter le poêle. Ah, à propos, il est en si mauvais état qu'il sera sans doute nécessaire que je le fasse reconstruire ou j'en achète un autre. Ben, pour le remplacer, il faudra des fonds. Et je n'en ai plus. Bon, peut-être qu'en économisant, je pourrais faire l'acquisition d'une coquille et y brûler du charbon de terre ou du coq. Ce serait plus avantageux. Mais j'y songe. Que me donnerais-je pour le jour de l'an? Ma parbleu, des cartes de visite. Puis j'achèterai des bonbons fins chez l'épicier pour en faire le doux et gracieux hommage à... Arrêtez-vous, papillon. Vous dépassez le chiffre de votre budget. Vous feriez des dettes, mon ami, vous en avez déjà. Où donc votre esprit voyage-t-il de la sorte? Malheureux qui n'avez oublié qu'un point dans vos comptes, celui qui concerne votre propriétaire. Qui donc ira chercher pour vous la quittance du loyer? Papillon, s'étant fait hautement cette malencontreuse confidence, se renverse en arrière sur sa chaise de bureau. Mais revenant bientôt à lui-même, il étend la main sur la table, il ramasse d'un seul monceau les pièces à l'aide desquelles il avait formé ses comptes, et il dit froidement, en les mettant dans la poche de son gilet, « Tout pour Papillon !» Chapitre 36. L'exéate. Tout bon musulman est tenu, suivant sa religion, de faire ses ablutions plusieurs fois dans la journée. Mais s'il se trouve dans un désert aride, où nulle source limpide ne s'offre à ses regards, il se prosterne alors dans le sable, et il s'en frotte la barbe et le menton en simulacre du même acte de dévotion. L'employé ne manque jamais d'eau. La carafe est en évidence, et le gardien du bureau a toujours le soin de la tenir pleine. Il n'arrive jamais que l'employé absorbe seul, comme dans le désert, tout le liquide contenu dans la carafe dont ses collègues ont la communauté. En tout cas, il existe, dans le couloir qui fait suite à l'antichambre, une fontaine où l'on peut remplir deux ou trois fois la même carafe sans être obligé d'adresser une demande de secours à l'administration. L'employé possède, outre la carafe qui est en cristal, une cuvette en faïence où il peut faire ses ablutions. Mais les commis, en général, ne sont pas bons musulmans. Ils se soucient fort peu de se nettoyer le front et la barbe. Il leur suffit de se laver les mains. Cette opération a lieu vers la fin de la journée, c'est-à-dire un quart d'heure de plus avant l'instant du départ du bureau, qui est fixé à 4h30 du soir. Les ablutions pourraient commencer encore plus tôt, mais il ne serait pas permis aux employés de partir avant l'heure réglementaire. L'exéate ne sort du cabinet du chef qu'à la dernière limite de l'heure indiquée, et ce n'est qu'après la signature de la feuille de présence du soir que les employés peuvent s'affranchir du joug bureaucratique. Ah, il faut alors les voir s'élancer hors du bureau comme un joyeux troupeau d'enfants sortant de la sombre école. C'est à qui hâtera le pas pour devancer l'autre et arriver le plus vite à la porte de sortie. On croit revoir en grand la charmante peinture de Descamps. Dans ce tableau vivant, on ne se bouscule pas comme dans le tableau de l'artiste, mais on se quitte sans se saluer, sans se dire où l'on va. Heureuse liberté, c'est toi qui causes tout ce désordre. Cependant, il n'est que trop vrai, hélas, que la liberté des employés est un peu de durée, et très peu de durée. Il faut qu'ils soient de retour au bureau le lendemain matin à 10h précises pour reprendre le cours habituel de leurs occupations. Néanmoins, un moment de liberté, si court qu'il soit, rachète un long jour d'ennui, de tourments ou de travail assidu dans un bureau. Chapitre 37. Les étrennes. Ma tâche étant remplie en même temps que celle de mes collègues, je prendrai également congé du bureau après avoir signé la feuille de présence. Seulement, je serai heureux, cher lecteur, si vous consentez à m'accompagner jusque sur la hauteur de Belleville où je demeure et où le dîner sera prêt quand nous arriverons. Toutefois, je dois vous prévenir que j'aime beaucoup à flâner en chemin, surtout le 31 décembre, à cause des étrennes qui garnissent l'intérieur ou la devanture des nombreuses boutiques de marchands qui obtiennent la permission de s'installer sur les boulevards. Je suis encore, comme au jeune âge, heureux de contempler les jouets riches et variés qu'on étale à mes yeux. Je souris à l'aspect du polichinelle, qui, fier de ses deux bosses ou de ses deux figures enluminées, ressemble au dieu Janus, qui en laisse une par derrière pour courir après celle qui est devant lui. Ce polichinelle ruisselant de mille paillettes d'or,
et qui sera l'objet de la tentation et des sollicitations pressantes de l'enfant qui va passer tout à l'heure près du marchand, sera brisé demain par ce même enfant qui aura obtenu de sa mère le droit d'emporter le jouet avec lui. Il démontra d'abord une jambe, puis un bras, ensuite la bosse de derrière, et si le polichinelle ne se brise pas le nez en tombant, ce sera grâce à la bosse qu'il aura conservée par devant. L'homme n'est pas plus raisonnable que l'enfant. Il profite aussi du jour de l'an pour se livrer à tous ses caprices déréglés et à ses goûts déraisonnables de dépenses inutiles. Ce sont des bonbons qu'il achète à un prix fou en raison du luxe de la boîte, du sac ou de l'étiquette qui annonce leur choix distingué. Ce sont des livres magnifiquement reliés d'or et sur tranche, ou bien les bijoux d'une fantaisie tout à fait de circonstance. Et tandis que le gai porteur d'eau fait emplette d'orange pour la dame auvergnate de ses pensées, le dandy, le lion, le fashionable, le singe de M. Mears ou le jeune habitant du quartier Bréda se ruinent pour une dame aux camélias à laquelle il achète une petite parure d'un millier de francs. La parure n'a qu'un temps. Son clinquant ressemble fort à celui de polichinelle. Les perles de cette parure seront brisées un jour, les diamants dispersés. L'amant qui les a achetés sera à la recherche d'une place dans une administration et la femme à l'hôpital. Et si ce malheur n'était pas arrivé, ne sait-on pas que la possession tue le désir et amène la satiété ? La possession ne satisfait ni les hommes ni les enfants. Pourquoi le cœur devient-il inconstant ? Je l'ignore. Ou plutôt, je craindrais de m'apesantir sur cette question qui m'obligerait à jeter quelques regards en arrière. Passons donc à côté de l'inconstance des hommes. Voyons-la fuir avec le jour de l'an. Et sachons profiter du coup d'œil enchanteur des étrennes sans nous embarrasser de richesses superflues que le temps pourrait disperser en laissant derrière elle des regrets. Chapitre 38 L'omnibus. Vous conviendrez cependant qu'il est cruel de ne rien acheter lorsque l'on sent remuer de l'argent dans sa poche et que, comme votre serviteur, l'on vient de recevoir le montant de ses appointements. La vue d'objets précieux réjouit les yeux, mais elle ne réjouit ni le cœur ni la bourse. Et le moyen de réjouir son cœur d'abord et de faire ensuite palpiter de joie celui des enfants, c'est d'ouvrir la bourse pour leur ménager quelques surprises à l'époque du jour de l'an. Arrière donc la pensée d'économie. Suivons la foule, imitons-la dans ses élans généreux. Advienne que pourra. Le 31 décembre n'a pas été inventé pour que nous gardions les deux mains dans les goussets de notre gilet et que nous promenions les coudes en dehors comme un Anglais misanthrope. Ce jour doit nous apprendre à faire le lendemain des heureux. Voici justement l'occasion. J'aperçois un confiseur, vite un bâton de sucre de pomme de Rouen ou de Paris. Combien pèse-t-il ? 1 livre. Bon, ce poids n'est pas lourd, et le bâton peut tenir dans ma poche. Mais j'ai 2 enfants. Par égal, mets-toi un second bâton de sucre de pomme de l'autre côté de mon paletot. Oh, la belle poupée que voilà dans la boutique voisine. Combien vaut-elle ? 6 francs. Bon, je l'emporte. Et ce jeu de patience ? Le même prix. Mais c'est à merveille. Il n'y aura pas de jalousie entre mes 2 filles. Chacune aura ce qu'elle désirait depuis 1 an. Mais ne pourrais-je pas, pendant que je suis sur les boulevards, faire achat d'un manchon à ma femme ? En voilà un de 100 francs. La martre m'en paraît fort belle. Elle est comme le livre avec la boîte lorsqu'il devra le contenir. Très bien, c'est payé, partons. Tiens, voici encore un marchand d'oranges. On ne voit que de ce fruit sur le boulevard. Au fait, on estime beaucoup les oranges chez moi. Si je faisais choix de quelques-unes, on risque de passer pour un porteur d'oranges. Oh, je vais en prendre une douzaine, ma foi. Tant pis si mes poches crèvent. On ne se charge jamais trop du soin de faire plaisir à ses semblables. En route maintenant, ou plutôt montons en omnibus. Je suis dans un jour de dépense et je ne vois pas d'inconvénient à occuper une place dans la voiture du pauvre. Comment la voiture du pauvre ? S'écrie à mes côtés un avare qui se tient en ce moment à la station de la Porte Saint-Denis. J'ai 25 000 francs de rente et je ne prends jamais d'autre voiture que l'omnibus. Il n'y a pas de plus commode au monde. Elle transporte 14 personnes à l'intérieur et 10 à l'impérial d'une extrémité de Paris à l'autre, moyennant la faible rétribution de 30 centimes par place en bas et 15 centimes en l'air. Mais je suis de votre avis, et il m'arrive fort souvent de m'installer dans l'omnibus. C'est la grande voiture de famille où les crinolines sont peu à l'aise, si elles ne gênent pas le voisin de gauche et de droite, mais où cependant on les tolère avec urbanité, malgré leur ampleur démesurée. À part l'inconvénient de la crinoline, on s'accorde mieux en omnibus qu'on ne le fait en diligence. Il y a rarement des querelles ou des difficultés sérieuses. On y cause familièrement, et on y fait parfois des connaissances honnêtes, si on n'y rencontre pas des protecteurs. Je suis, comme vous le voyez, partisan dévoué de l'omnibus, mais je n'ai aucune sympathie pour les avares. Et je ne comprendrai jamais qu'un homme ayant 25 000 francs de rente n'ait pas une voiture à ses ordres au lieu de prendre la place du pauvre dans l'omnibus. L'avare qui se prive de ce qu'il pourrait se procurer sans gêne est un être odieux. Je ne fais aucun cas de sa personne, et je l'assimile au bâton verni qui le soutient. Je ne chercherai pas à heurter la canne qui lui sert d'appui, mais je fuis l'avare si je le rencontre sur ma route. Que sa canne tombe de ses mains défaillantes et je ne l'aiderai pas à la ramasser. Je hais l'avare, et je ne tiens pas à me trouver en sa société. Je lui cède ma place dans l'omnibus. Puisse-t-il s'y trouver fort à son aise? Je lui réserve dans mes écrits une autre place où il sera fort à l'étroit. Quittons, amis lecteurs, le vieillard dont la figure repoussante et les paroles incongrues m'ont surexcité la bile. Et prenons de préférence l'omnibus à la Porte Saint-Martin. Mais que vois-je? À la station du second bureau, il y a plus de voyageurs que n'en pourrait contenir 5 voitures. Oh, décidément, je n'attends pas à cause de mes colis qui deviennent embarrassants et de plus en plus lourds. Guidons nos pas jusqu'au boulevard du Temple, à l'encoignure du faubourg. Hélas, autre déception. Il y a une affluence de personnes non moins grande à cette station qu'à celle de la Porte Saint-Martin. Mais bien, puisqu'il en est ainsi, montons à pied jusqu'à Belleville. C'est un beau site et le temps, quoique froid aujourd'hui, lui ressemble. Si j'arrive harassé de fatigue au logis, si tourmenté par la faim, j'ai tout au plus la force de recevoir les embrassements de ma femme et de mes enfants, je leur dirai, en me reposant de mes fatigues, « Soyez satisfaits, mes amis. Je vous rapporte quelques souvenirs de fin d'année et du voyage au bureau. » Conclusion. Amis lecteurs, il faut nous séparer. Je suis arrivé sans malencontre à destination et je vous remercie de m'avoir accompagné dans mon voyage. Je ne pensais pas, dès le début, pouvoir le faire avec autant de facilité. Vous m'avez encouragé et mon zèle ne s'est pas ralenti. Merci donc une seconde fois. Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Le premier pas d'un voyage est celui qui coûte le plus, de même que le premier chapitre d'un ouvrage est celui qui nous préoccupe sérieusement. Telle est aussi la vie bureaucratique. Quand le surnuméraire fait son entrée dans une administration, il croit ne jamais atteindre le but de son voyage. 30 années consécutives de présence obligée dans ce bureau, se dit-il, pour avoir droit à la pension de retraite, ouh, quelle longue existence! Cette longue existence n'est souvent qu'un rêve de courte durée. La vie passe si vite que l'on a tort de se plaindre de ses charges. Il faut les supporter avec courage, patience et résignation. Il faut, en un mot, être satisfait de son destin, s'endormir paisiblement dans son lit quand vient le soir, en priant Dieu de nous permettre le lendemain de parcourir le voyage à notre bureau, en compagnie du lecteur, s'il veut bien encore nous faire l'amitié de nous accompagner. Fin.